Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Neïla Latrousse.
Avec ce soir, Édouard Philippe qui renouvelle sa confiance au ministère de l'Intérieur. La droite réclamait la démission de Christophe Castaner après ses propos jeudi. Il avait estimé que l'assaillant de la préfecture de Paris ne présentait pas de signaux d'alerte. Tout à l'heure, le procureur disait quant à lui qu'il s'était radicalisé dans ces dernières années. Et puis la majorité qui se prend les pieds dans la loi bioéthique autour d'un amendement adopté jeudi, puis retiré, qui semblait assouplir, ouvrir la voie à la gestation pour autrui. Est-ce que ce texte peut fracturer la majorité? On en débat avec nos informés de ce samedi. Alice Coffin, bonsoir, porte-parole de la Conférence européenne lesbienne et cofondatrice de l'Association des journalistes LGBT. À vos côtés, Robert Namias, journaliste, ancien directeur de l'information de TF1 et auteur cette année du très remarqué thriller Fake News chez Robert Laffont avec Michel Cotta, me semblait-il. Céline Pic, porte-parole de l'association Oser le féminisme, et Arnaud Stéphan, spin doctor, communicant un bref temps conseiller de Marion Maréchal. Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la télé, canal 27 de la TNT. Le Premier ministre Édouard Philippe accorde une interview au Journal du Dimanche à paraître demain et lance deux missions pour détecter les signes de radicalisation chez les agents du renseignement, annonce après les détails livrés dans l'après-midi par le procureur Jean-François Ricard. Il a livré des détails sur l'attaque qui a eu lieu jeudi à la préfecture de Paris et sur le profil inquiétant de l'assaillant. Écoutez.
Plusieurs témoignages ont fait apparaître que l'auteur des faits aurait adhéré à une vision radicale de l'islam. Ceci résulte notamment à ce stade, et selon plusieurs témoignages, des éléments suivants. D'abord, son approbation de certaines exactions commises au nom de cette religion, son souhait de ne plus avoir certains contacts avec les femmes, sa justification auprès d'un collègue de travail des attentats commis dans les locaux du journal Charlie Hebdo en 2015, son changement d'habitude vestimentaire depuis quelques mois, enfin, l'intéressé abandonnant toute tenue occidentale au profit d'une tenue traditionnelle pour se rendre à la mosquée.
Robert Namias, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu faille dans la surveillance de cet agent administratif?
Ah bah, incontestablement, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour anticiper vraisemblablement sur la question concernant Castaner, puisque vous parliez d'Édouard Philippe il y a un instant, moi je crois que, bon, il y a la politique, et que ce soit à droite, au Front National, ou peut-être ailleurs d'ailleurs, on fait de la politique, c'est normal, il y a la politique, puis il y a le fonctionnement de l'État. S'il faut mettre en cause la façon dont on a géré depuis plusieurs années déjà à la préfecture de police la question de l'islamisme, il faut mettre en cause tous les ministres de l'Intérieur depuis que cet assassin travaillait à la préfecture de police, puisque depuis manifestement, 2003, depuis déjà une dizaine d'années, il avait marqué des signes, et c'est l'erreur de Castaner dont on pourra parler, mais ça c'est de la communication, il avait marqué des signes de radicalisation. Donc effectivement, on peut énumérer la liste, hein, on peut de Brice Hortefeux au dernier, Castaner, mais en passant quand même par Claude Guéant,
Gérard
par
Collomb,
Manuel Valls, par Bernard Cazeneuve, par d'autres encore, j'en ai oublié un je crois, tous sont responsables dans ce cas-là. Donc, on peut mettre en cause, pour des raisons politiques, le ministre de l'Intérieur, qui, par ailleurs, est peut-être tout à fait contestable dans ses fonctions de ministre. Mais dans cette affaire-là, ne confondons pas la politique et la question gravissime de ce qui s'est passé jeudi dernier, et qui pose des questions beaucoup plus profondes que des simples effets de manches politiques.
Robert Namias, on va revenir sur Christophe Castaner et ses demandes de démission, mais sur ce cas-là précis, Arnaud Stéphan, tous les ministres sont coupables ou aucun n'est coupable?
Oui, mais
dans la surveillance de ce profil.
Quand on dilue les responsabilités, finalement, personne n'est responsable. En ce qui concerne la communication du ministre de l'Intérieur, l'erreur, il est que lui a fait de la politique au lieu de se contenter d'être uniquement...
Mais il y a certainement des vrais responsables à la préfecture de police, incontestablement.
Bon, si je peux vous répondre, ça serait pas mal.
Je vous prie.
Donc, c'est lui qui a décidé de faire de la politique en ayant un discours qui a commencé par dire qui n'était pas responsable de cet attentat. C'est ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'au moment où il prend la parole, il commence par ça. Il suffisait juste qu'il... qu'il fasse des faits, qu'il parle des faits et qu'il parle éventuellement de la personne qui avait commis l'acte. On lui demandait rien d'autre. C'est lui qui est rentré dans un discours et il est obligé de l'assumer. C'est ce qu'on appelle au sport jouer sur les talons. Parce que maintenant, il est comptable de ce qu'il a pu dire lors de cette conférence de presse.
Mais au-delà du cas de Castaner, est-ce qu'il y a eu des failles de surveillance qui remontent peut-être à 2003, au moment où cet agent a intégré la préfecture de Paris.
Visiblement, il rentre à la préfecture de police dans un service particulier. Il est criblé et il y a absolument pas de problème visiblement sur son profil. C'est à partir de 2008 visiblement qu'il y a un changement et ce changement va évidemment évoluer et encore une fois, il y a une autre évolution, il y a à peu près 18 mois, où là, il y a vraisemblablement une radicalisation. Mais c'est très compliqué parce que vous avez énormément de fonctionnaires. On parle de 43 000 agents à la préfecture de police de Paris. C'est extrêmement compliqué de faire un suivi systématique. En revanche, ce qui est embêtant, c'est encore une fois la prise de parole du ministre qui explique que il n'y avait aucun signe qui aurait pu laisser penser que celui qui a commis l'attaque était dans un mode de radicalisation. C'est faux, puisqu'on savait que depuis 2015, il y avait déjà eu des signalements.
Et on va revenir sur le cas de Christophe Castaner en particulier. Céline Pic, porte-parole d'Oser le Féministe, on nous dit que cet assaillant fréquentait notamment un certain nombre de salafistes, mais que c'était pas forcément des salafistes qui, eux, appelaient à l'action terroriste. Est-ce que dans cette surveillance de ces personnels, derrière, va forcément arriver le débat sur les libertés de chacun et qui surveille qui et sous quelles conditions et qui a le droit de penser quoi et à quel moment? Ou est-ce que la lutte antiterroriste, pour le coup, justifie de resserrer?
Je pense que la lutte antiterroriste, en particulier dans les effectifs de la préfecture, c'est ça qui est réellement choquant dans cette affaire, c'est le fait qu'il soit dans la direction du renseignement de la préfecture de police doit être nécessairement concilié respect effectivement comme vous dites des libertés et en même temps d'être en capacité de les repérer. Effectivement, la direction du renseignement de la préfecture de police est en plus un endroit encore plus sensible que d'autres et les ratés sont choquants pour tous.
Et dans quelques instants, nous évoquerons cette interview d'Edouard Philippe dans le JDD qui propose notamment le lancement de deux missions pour détecter les signes de radicalisation. 20h10 sur France Info, d'abord le rappel de l'information avec vous Solène Cressan.
Le Premier ministre Édouard Philippe a toute confiance en son ministre de l'Intérieur. Il répond à une interview au journal du dimanche à paraître demain. Christophe Castaner est critiqué par l'opposition qui demande sa démission après la tuerie à la préfecture de police de Paris qui a fait 4 morts. Il y aura d'ailleurs une cérémonie d'hommage mardi matin en présence d'Emmanuel Macron. 2 personnes en garde à vue à Amiens et 9 interpellées pendant la manifestation des Gilets jaunes, 450 personnes environ. La préfecture de la Somme parle de Black Blocs dans le cortège. Ils ont lancé des pierres aux forces de l'ordre qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Un CRS a fait un malaise. Le PDG monde de Lubrizol promet d'indemniser les riverains victimes de l'incendie de l'usine chimique à Rouen dans les jours à venir. Éric Schnur a pris la parole sur France 3 Normandie après sa visite sur le site. On n'attend pas que le processus de l'enquête soit terminé pour aider les personnes, a-t-il déclaré. Le gouvernement met la pression sur l'usine pour l'application du pollueur-payeur. En Irak, 5e jour de manifestation pour réclamer le départ du gouvernement accusé de corruption. Des milliers de personnes de nouveau dans les rues de Bagdad et dans le sud du pays. Avec des tirs entendus dans la capitale, le mouvement de contestation a déjà fait une centaine de morts. Le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, ne sera pas dans ses cages pour les prochains matchs qualificatifs pour l'Euro 2020, Islande et Turquie. Il est gravement blessé au coude. Le gardien lillois, Mike Maignan, est rappelé.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neïla Latrousse.
Un casier judiciaire vierge, une vision radicale de l'islam et des contacts avec la mouvance islamiste salafiste. Voilà les grandes lignes du profil de Michael H., l'assaillant de la préfecture de Paris jeudi. Hors antenne, Alice Coffin, porte-parole de la Conférence européenne lesbienne. Vous me disiez que vous, ce qui vous avait marqué, c'était cette procédure en 2009 pour violence conjugale. Pourquoi est-ce que c'est ce point-là qui vous a marqué dans le profil ?
C'est bon, quand tout est marquant, hein, quand il s'agit d'un acte d'une aussi grande brutalité, mais de mon point de vue, avec ma spécialisation, je trouve qu'on ne remarque pas assez que dans ce cas-là, effectivement, il était référencé pour violence conjugale, que le tueur de Nice en 2016 était référencé aussi pour violence contre sa femme et sa belle-mère, et je le dis de manière, ceci est documenté. Aux États-Unis, une étude massive a été faite sur les tueries de masse entre 2009 et 2017, et qui se trouve que l'énorme majorité des tueurs avaient commis des faits de violence conjugale. Donc ça fait partie des choses dont il faut s'interroger.
Faibles ou forts, enfin, sans les qualifier forcément, mais en tout cas des signaux qu'on aurait tort.
Parce que y a beaucoup de choses quand ça arrive comme ça. Il y a eu des réactions de la part notamment de la sénatrice Europe Écologie Esther Benbassa, confirmée par d'autres sénatrices sur le fait qu'en 2017 avait été publié un rapport sur les politiques de déradicalisation et la nécessité de changer de paradigme. Et ces sénatrices, encore une fois de tous bords confondus, se plaignaient que tout ceci n'avait pas été suivi, évalué. Ça vaut effectivement pour tout le versant de ce qu'on appelle la radicalisation. Après, sur les tueurs, comme ça, quand on est en face avec, c'est quand même ce type de tuerie-là, d'aller avec un couteau, ces faits-là, bien sûr qu'il faut aller observer quand même très 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 largement, et je pense qu'évidemment les faits de violence conjugale sont à observer d'extrêmement près. Ouais.
Et des fonctionnaires radicalisés, il y en aurait d'autres, d'après Denis Jacob du syndicat Alternative Police CFDT, il était tout à l'heure sur France Info.
Ce sont quelques dizaines de policiers qui nécessitent un suivi, mais toujours est-il qu'il faut se poser la question de la présence de policiers radicalisés. Vendredi 4 octobre, après 13h, un message a été envoyé dans certaines administrations par courriel avec une fiche très précise sur la conduite à tenir. C'est quand même une drôle de coïncidence. Ça témoigne qu'il y a un problème de radicalisation dans les administrations françaises et qu'il faut se pencher sur ce problème-là et puis y apporter des réponses et des solutions.
Robert Namias, Michael H, c'est l'arbre qui cache la forêt.
Oui, en tout cas, moi je suis très surpris, même on parle de radicaliser suivi dans la police, mais il ne devrait pas être dans la police. C'est quand même tout à fait surprenant. Encore une fois, je comprends très bien qu'on puisse vraiment se poser des questions gravissimes qui ne sont pas complètement mises sur la table, parce qu'encore une fois, on dit on va améliorer la détection, etc. Mais là, en l'occurrence, notamment dans un service de renseignement qui avait accès à des fichiers de milliers, de dizaines de milliers de fonctionnaires, de personnalités, etc. Il ne s'agit pas de savoir s'il est suivi. Il s'agit évidemment de le sortir d'un service dans lequel il crée un danger. C'est incontestable. Mais c'est vrai. Ça n'est pas vrai que pour la préfecture de police.
Pour vous, que je comprenne bien, pour vous, le soupçon justifie la mise à l'écart.
C'est plus qu'un soupçon. Là, l'accumulation. Quand on entend le procureur de la République à 15h, l'accumulation, effectivement, des faits de radicalisation depuis une dizaine d'années rend absolument incompréhensible le fait que ce monsieur ait été encore dans un service de renseignement au sein de la préfecture de police. C'est absolument, mais incompréhensible, honnêtement. Et, bon, je veux bien que... et encore une fois, je ne défends pas Castaner, dont je trouve qu'il a une communication absolument catastrophique. Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais ministre de l'Intérieur. Mais en l'occurrence, les questions, il faut vraiment les poser en amont. Et puis surtout, il faut y trouver des solutions extrêmement rapides. Il ne suffit pas de créer de nouvelles missions pour savoir comment on va mieux détecter les éventuels radicalisés. Il y a vraisemblablement, puisqu'on parle de suivi, il faut savoir où ils sont, ces suivis. Si c'est des suivis dans des sphères privées, on peut les suivre, en effet, les mettre sur écoute, etc. Et encore. Mais s'ils travaillent dans la fonction publique, fonctions publiques qui peuvent être l'école, par exemple, qui peut être l'hôpital...
Le transport, éventuellement.
Absolument. Il n'y a pas que la fonction publique, mais déjà, c'est une sphère très importante. Enfin, on se pose la question de savoir comment on peut, à partir du moment où il y a des faits de radicalisation, comment on peut les garder. Il ne s'agit pas de les mettre en prison, mais il s'agit de ne pas créer un danger supplémentaire en les laissant évoluer dans des sphères où ils ne devraient pas être.
Arnaud Stéphan, on entend ce que dit Robert Namias à l'instant, mais dans le même temps, Michael H., malgré les mécanismes de suivi, il était passé entre les gouttes. Ah oui. Bien malin, celui qui peut dire avec moi, il n'y en a plus aucun qui réussit à aller au bout de son action.
À part dans les jours qui ont précédé où il a commencé vraiment à avoir un changement de comportement en refusant de saluer ses collègues femmes, ce qui est quand même déjà un mauvais signal.
Ça aurait dû alerter pour vous à ce moment-là.
Je pense que là c'est le
Charlie Hebdo était très. On a alors, passé le point limite. Charlie Hebdo, on n'a pas très bien compris, Robert très Namias. Sincèrement. Pardon, excusez-moi. On n'a pas très bien compris si c'était dans la sphère du travail ou dans une sphère extérieure, amicale ou familiale.
Oui, c'était réjoui des attaques contre Charlie Hebdo, absolument. Pour rappeler.
Validé le fait qu'il était normal d'assassiner 11 journalistes de Charlie Hebdo, puisque ça, par contre, ça a été dit partout, c'est de 2015, ça fait 4 ans. Alors, vous parliez tout à l'heure des violences faites aux femmes, vous avez tout à fait raison, d'ailleurs. C'est vrai que c'est un signe incontestable, d'autant plus qu'on sait bien que l'islam, il faut bien lire, a quand même un rapport aux femmes assez particulier.
C'est pas l'islam, c'est les tueurs des États-Unis qui ont été référencés dans cette étude, celui de l'Orlando, de Sutherland Springs.
Mais il faut dire les choses clairement, quand même. Bon, très bien. Il reste que ces signes-là, ils ne datent pas d'il y a quelques jours, pardon.
Arnaud Stéphan, est-ce qu'un politique peut dire aujourd'hui, avec moi, plus personne ne passe entre les mailles
du
filet ?
Non, et j'ai entendu des déclarations qui expliquaient qu'on allait repasser tout le monde au tamis, etc. Faut être sérieux, il y a plus de 100 000 agents du ministère de l'Intérieur. Il y allait aussi les militaires, parce qu'il y a aussi des cas de radicalisation chez les militaires. Ça a été relativement vite circonscrit, puisqu'il y a des services de renseignement très efficaces.
Je précise que quand on évoque radicalisation, il y a la radicalisation islamiste, mais que les députés chargés de la mission d'information autour de ces phénomènes évoquent aussi une partie de l'ultra-droite qui est surveillée dans ce cadre-là.
Ouais, enfin, sur les 10 dernières années, les attaques n'ont été commises que par des radicalisés d'une partie. Sur le point qui a été évoqué tout à l'heure, on parle de 30 policiers qui sont suivis pour faits de radicalisation, et on parle, rien que pour la préfecture de police de Paris, de 15. Mais encore une fois, ce sont des éléments qui sont à compléter avec ce qui se passe dans les transports. Il y a le rapport Diard qui est vraiment très choquant là-dessus, et puis aussi dans l'associatif. On parle pour les clubs sportifs de 835 sportifs qui ont été catalogués comme radicalisés. Donc, c'est-à-dire en contact direct avec les enfants, on est obligé de leur retirer. Dans les syndicats, il y a eu en 2016, il y a un article de Marianne d'ailleurs qui en parle, une filiale de Air France. Le syndicat avait été noyauté, la CGT avait été noyautée par les islamistes. La CGT avait été obligée de retirer les délégations à ses membres.
Et je reposerai dans quelques instants la question à Céline Pic, qui est à vos côtés, hein, sur ce rapport aux femmes. Est-ce que pour vous, il doit être un signal de radicalisation, un homme qui refuse de serrer la main aux femmes, qui, comme le disait Alice Coffin, avait été signalé aussi pour des violences conjugales? 20h20 sur France Info, je vous donne la parole juste après le rappel de l'information de Solène Cressan.
Édouard Philippe lance 2 missions d'évaluation des agents de la lutte antiterroriste, annonce dans une interview au JDD à paraître demain après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. L'assaillant travaillait depuis 2003 à la préfecture au sein du service des renseignements et il adhérait à une vision radicale de l'islam proche de la mouvance salafiste. L'une des missions s'intéressera au service où travaillait l'assaillant et rendra ses conclusions dès la fin du mois. Après la mort d'un lycéen de 15 ans hier au Lilas en Seine-Saint-Denis, poignardé près d'un collège, les 3 mineurs interpellés restent en garde à vue au moins jusqu'à demain. À la veille de la manifestation des opposants au projet de loi bioéthique qui comprend l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, une contre-manifestation place Saint-Michel à Paris cet après-midi. Quelques dizaines de partisans à la procréation médicalement assistée et des défenseurs des droits LGBT. Un garçon de 14 ans blessé par balle à la jambe à Hong Kong après une nouvelle journée de manifestation qui a attiré des milliers de personnes. Ils ont bravé l'interdiction des autorités de défiler avec un masque. Le mouvement de contestation contre le pouvoir local pro-Pékin dure depuis 4 mois dans l'ex-colonie britannique. Pas de finale pour nos bleues femmes aux 4x400 mètres au Mondiaux d'athlétisme de Doha. Défaite aussi de nos Françaises sur le 100 mètres haies. Ce soir, finale 4x100 mètres dames et messieurs à partir de 21h avec notamment Christophe Lemaître.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neïla Latrousse.
Juste avant le rappel de l'information de Solène Cressan, Alice Coffin, voyez un lien entre terrorisme, ultra-violence et rapport aux femmes. Effectivement, Michael H., l'assaillant de la préfecture de Paris, avait été signalé pour violence conjugale en 2009. Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme, pour vous, ça doit être un signal irrémédiable, un homme.
Alors, juste rappelons quelques chiffres. Il y a 225 000 femmes victimes de violences conjugales. Donc, on peut dire que quasiment tous les terroristes, que ce soit des suprémacistes blancs, comme ça a été dit par Alice Coffin, comme des terroristes islamiques, ont été auteurs de violences conjugales auparavant. C'est même 100% pour les suprémacistes blancs, selon le dernier article que j'avais lu. Donc, simplement, il y a beaucoup plus de conjoints violents que de terroristes, heureusement. Donc, ça ne ne peut pas être un moyen de détecter les terroristes. Soyons extrêmement clairs par rapport à ça. Par contre, ça indique un rapport à la violence. Effectivement, ce sont des personnes qui se sentent légitimes à utiliser la violence. Et en premier lieu, et la première des violences, en fait, c'est la violence intrafamiliale, c'est-à-dire la violence dans le foyer contre leur épouse.
Ce signe-là, le ministre de l'Intérieur ne l'avait pas pris en compte, peut-être, dans sa déclaration de jeudi, lorsqu'il s'est rendu à la préfecture de Paris. Pas de signe d'alerte, disait alors Christophe Castaner. Écoutez.
Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillait avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte.
Une déclaration qui a posteriori a fait bondir la droite. J'aimerais qu'on écoute ses réactions du côté des Républicains.
Comment des individus comme celui-ci ont pu travailler à la préfecture de police, avoir accès, semble-t-il, selon les informations qu'on a aujourd'hui, à beaucoup de fichiers, y compris aux adresses personnelles des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Donc il doit y avoir la lumière absolue sur tout cela pour prendre les mesures qui s'imposent pour sécuriser au maximum.
Soit il a dissimulé des éléments dont il disposait, c'est extrêmement grave sur le profil de cette personne, soit il les ignorait, c'est encore plus grave. Donc aujourd'hui, il a perdu toute crédibilité pour assumer ses fonctions.
Robert Namias, je vous voyais dodeliner de la tête. Est-ce qu'il ne pose pas une question, au final, Éric Ciotti, qu'on est en mesure d'entendre? Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il ne savait pas? Est-ce qu'il a dissimulé? Est-ce qu'il a parlé trop vite?
Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que M. Castaner est un spécialiste des déclarations précipitées, ce qui est quand même extrêmement fâcheux pour un ministre de l'Intérieur qui, en tout état de cause, doit évidemment en permanence garder non seulement son sang-froid, ce qui est normal, mais une totale réserve par rapport aux événements qu'il vient de commenter. Je n'aurais pas la cruauté de rappeler ce que Castaner avait dit à propos d'une invasion de gilets jaunes dans un hôpital l'hiver dernier, ou au printemps dernier. Donc c'est vrai que de toute façon, on voit bien ce qui s'est passé. On peut le décrypter, parce qu'on le sait tous. Il a demandé dans sa voiture, en arrivant à la préfecture, qui est ce monsieur dont il n'avait évidemment jamais entendu parler. Et on lui a dit, ben voilà, c'est un type qui travaille à l'informatique, au service de renseignement. Apparemment, on n'a rien sur lui. Il n'est pas fiché. Et au lieu de rendre un hommage aux policiers tués, et puis de dire que pour le reste, eh bien évidemment, on attendait l'enquête, car on ne connaît pas et qu'il ne connaissait pas, ce personnage, il a fait une déclaration précipitée. Alors, après, on peut en déduire qu'il n'est pas à la hauteur de sa fonction, c'est autre chose. Je dis simplement que, en l'occurrence, c'est un dérapage de communication qui ne met pas en cause, encore une fois, le fonctionnement du ministre de l'Intérieur. Ce qui est problématique, je le répète, c'est ce qui s'est passé à la préfecture de police.
Lise Coffin et Arnaud Stéphane.
Moi, j'enseigne à l'université un tour sur la communication politique. On avait une session sur Christophe Castaner l'an dernier avec les étudiants. Il en est ressorti. Les grands trucs, c'était
carrément
sa communication, ouais, un tiers, sur légèreté, nonchalance et approximation, en fait. Ce qui passait encore, il n'était pas ministre de l'Intérieur alors, mais quand ça vient cogner avec la fonction du ministre de l'Intérieur, qui, évidemment, tout propos fixe et extrêmement entendu, mène à des catastrophes. Et on parlait tout à l'heure, c'est fréquent, Robert Namias évoquait le cas des Gilets jaunes récemment, sur les féminicides, on a eu une communication absolument catastrophique à coup de « il faut raison garder ».
Un néologisme catastrophique, c'est ça,
ouais, ça pourrait, ouais.
La Lise Coffin dit « légèreté ». J'entendais Robert Namias dire manque de sang-froid, Arnaud Stéphane.
Ce qui m'embête là-dedans, c'est qu'il y a deux éléments qui sont plutôt assez inquiétants. Post-communication. La première chose, c'est que moi, je peux entendre en effet un ministre. J'ai moi-même travaillé avec des hommes politiques et des femmes politiques. C'est vrai que quelquefois, on est un peu dans l'urgence. Il faut éviter quand même de céder à l'immédiateté, parce que c'est l'autoroute pour dire des bêtises. En revanche, ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'une fois que le ministre a fait sa déclaration, on sait tout. Enfin, faut pas se tromper. Ça s'appelle les informés, non? On a tous eu nos téléphones, nos textos qui ont commencé à crépiter. Il était connu. Bah, c'est pas vrai. Il était connu. Il y avait son signalement de 2015 pour l'affaire, rien que pour l'affaire, évidemment de Charlie Hebdo.
Mais pour la deuxième chose, c'est de la précipitation, vraiment?
Non, je pense pas que ça soit que de la précipitation. Il y a la précipitation et il y a un manque de sérieux, et je pense que même dans ses équipes, il y a un problème. Parce que, je vous dis, une fois de plus, il a fini son intervention, on recevait des textos en disant c'est pas vrai, il était déjà signalé en 2015. Et la deuxième chose, et ça s'est révélé aujourd'hui, par Le Parisien, c'est qu'il y a eu des pressions sur les collègues de travail pour leur dire de la fermer et de ne pas dire que depuis quelques temps, il y avait quand même des signes inquiétants chez ce collègue qui est devenu terroriste.
Ça, c'est dans Le Parisien. On verra si la suite de l'actualité confirme ces pressions qui sont effectivement évoquées par ce journal. Dans quelques instants, la GPA, la gestation pour autrui, la PMA, procréation médicalement assistée, la majorité se prend les pieds dans la loi bioéthique à l'Assemblée. Le texte peut-il fracturer En Marche ? Réponse après la météo et le journal.
Alors, cette grande nouvelle, raconte.
Bon, tu sais que je viens d'acheter mon nouvel appartement chez Vinci Immobilier.
Oui, t'as trop de chance.
Comme tu cherches un logement neuf, je t'ai parrainé. À toi un grand choix d'appartement et à moi les chèques cadeaux si tu signes chez Vinci Immobilier.
C'est génial, ça.
Et oui, que vous soyez client ou non, en parrainant vos proches, vous pouvez gagner jusqu'à 8000 euros en chèques cadeaux. Et à la rentrée, découvrez 20 nouvelles résidences et plus de 2600 logements neufs partout en France sur vinciimmobilier.com. Habiter ou investir avec Vinci Immobilier, on a tous à y gagner. Conditions d'éligibilité et règlements disponibles sur le site.
France Info Météo avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
Bientôt 20h30 sur France Info, les prévisions météo avec vous Jean-Michel Golinski.
Une nouvelle vague de pluie régulière va arriver ce soir par la Bretagne. Demain, elle va traverser une grande partie du pays vers l'est, touchant la frontière allemande à la mi-journée, puis les régions proches de la Suisse en cours d'après-midi, en donnant des flocons sur les Alpes du Nord au-dessus de 2000 mètres et vers 1500 mètres dans la nuit de dimanche à lundi. Sur les régions de l'ouest, après les pluies, c'est un régime de ciel variable avec averses qui va s'engager dès le matin sur la Basse-Normandie, les Pays de la Loire et la Bretagne. En journée, ce temps instable va gagner vers la Belgique, le bassin parisien, le centre, le Limousin et l'Aquitaine, poussé par un vent de nord-ouest assez fort au nord de la Loire et près de l'océan. Enfin, autour de la Méditerranée, le Mistral et la Tramontane sensibles vont maintenir un temps plutôt bien dégagé. Les températures maximales, pratiquement partout stationnaires, vont afficher 15 à 18 degrés dans la moitié nord, une moyenne de 21 dans le sud-ouest et de 24 près de la Méditerranée.
Sur France Info, toute l'information avec vous Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Naïla, bonsoir à tous. Première conférence de presse deux jours après la tuerie de la préfecture de police de Paris pour le procureur antiterroriste Jean-François Ricard qui confirme le scénario djihadiste de cette attaque. Il précise que l'auteur de l'attaque d'avant-hier aurait adhéré à une vision radicale de l'islam et qu'il était converti depuis une dizaine d'années. L'enquête a montré aussi qu'il avait pris en contact avec plusieurs personnes de la mouvance salafiste, d'où la saisine du parquet antiterroriste. La garde à vue de l'épouse de l'auteur de la tuerie est prolongée, elle, de 48 heures. Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, était tout à l'heure à l'invité de France Info, se posant des questions sur d'éventuelles failles de la surveillance des agents radicalisés.
Il y aura une faille s'il est prouvé que des remontées ont été données à la hiérarchie et que rien n'a été fait. Est-ce qu'il y a eu, suite à ces constatations de ses collègues, est-ce qu'il y a eu une audition administrative, un entretien professionnel pour voir si dans sa vie privée, effectivement, il avait des relations avec le milieu salafiste ? Il faut vraiment qu'on uniformise la manière de gérer tous les changements comportementaux à la direction générale de la sécurité intérieure, mais aussi à la direction du renseignement de la préfecture de police. Est-ce qu'on doit voir l'accréditation secret défense plus régulièrement que tous les 7 ans? Est-ce qu'on doit cribler plus régulièrement que tous les 5 ans? Il y a une vraie question de méthodologie dont on doit tirer des enseignements.
Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Et puis dans une interview au journal du dimanche, Édouard Philippe annonce le lancement de 2 missions sur la détection d'éventuels signes de radicalisation d'agents de la lutte antiterroriste. Le Premier ministre qui dit aussi sa confiance à son ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Elle dénonce les féminicides et réclame au gouvernement une mobilisation plus forte. La peau et les cheveux grisés par de l'argile, une centaine de fémènes ont traversé traversé en silence aujourd'hui le cimetière du Montparnasse à Paris. Des centaines de manifestants pro-démocratie ont, eux, bravé l'interdiction des autorités en défilant avec un masque sur le visage à Hong Kong. La mégapole est pratiquement à l'arrêt avec la fermeture du métro et de nombreux magasins suite à une nouvelle nuit de violence dans le territoire. Le football est la 9e journée de Ligue 1, privé pourtant de Kylian Mbappé, mais avec Neymar buteur, le PSG a déroulé contre son dauphin Angers. Victoire 4-0 des Parisiens en attendant Toulouse, Bordeaux, Nantes, Nice, le déplacement de Metz à Brest, celui de Monaco à Montpellier et Dijon qui reçoit Strasbourg. Enfin, cette nouvelle tuile pour Hugo Lloris, le gardien français de Tottenham, a été évacué sur une civière à Brighton, gravement blessé au coude. Il est forfait pour les matchs qualificatifs pour l'Euro 2020 des Bleus contre l'Islande et la Turquie. Il sera remplacé par le Lillois Mike Maignan. À 20h33, Naïla Latrousse les informés.
Les informés, Neila Latrousse.
Avec toujours Alice Coffin, porte-parole de la Conférence européenne lesbienne et cofondatrice de l'association des journalistes LGBT, Robert Namias, journaliste, ancien directeur de l'information de TF1 et auteur du thriller Fake News chez Robert Laffont, Céline Pic, porte-parole de l'association Oser le féminisme, et nous a rejoint à vos côtés Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous. Bonsoir. Les doutes à Rouen, après l'incendie d'une usine classée Seveso, l'usine est mitoyenne de Lubrizol a aussi partiellement pris feu, ce qui ajoute à l'inquiétude sur place sur la nature des produits qui ont brûlé. Emmanuel Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique, faisait le point ce matin sur France Info.
On sait que les premières analyses sur l'air, sur l'eau sont rassurantes et on sait aussi qu'il faut continuer des analyses complémentaires pour continuer à chercher d'autres effets du fait que tout s'est produit et brûlé. Et donc c'est trop tôt encore pour avoir un bilan très précis des conséquences, notamment en matière de santé.
Alice Coffin, il y a quelques instants, vous nous évoquiez ces cours de communication que vous donniez. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a eu du mal à démarrer, la communication de crise.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils vont avoir ça en exposé cette année, les étudiants, parce que c'est catastrophique, la communication, c'est jamais que la communication. C'est-à-dire que la façon...
C'est le fond qui remonte à la forme, comme on dit.
Ouais,
la forme qui revient au fond.
C'est la façon dont les gens qui habitent à Rouen n'ont pas été informés correctement. Vous avez peut-être vu passer, comme moi, de nombreux messages sur les réseaux sociaux qui disent « mais il faut faire quoi ? Est-ce qu'il fallait ou pas boucher l'aération ? Comment je fais avec les fenêtres ? Comment ça se fait ?» Il y a eu un article de Mediapart aujourd'hui qui mettait en cause notamment certains propos de la préfecture qui n'a pas su tout de suite quel volume de marchandises, comment, quelles infos, encore une fois. Enfin, c'est absolument gravissime. Moi, je trouve la façon dont, justement, on n'a pas donné les informations nécessaires à la population dans le cadre de cette catastrophe.
Robert Namias.
Je suis absolument d'accord. Je dois mettre un tout petit bémol quand même, c'est qu'en matière de communication, ce qui s'est passé jeudi, il y a 8 jours maintenant, dans ce cas, les médias sont exactement au même plan. Je ne sais pas ce que vous avez fait à France Info à partir de midi.
On a suivi.
À partir de midi. Je pense que vous avez un peu oublié ce qui se passait à Rouen pour ne parler que de Jacques Chirac. Donc il n'y a pas que le gouvernement. Bon, et donc ça c'est un phénomène habituel. Par contre, c'est une erreur du gouvernement que de ne pas avoir, malgré évidemment la mort de Jacques Chirac, fait ce qu'il avait à faire à Rouen. Et ce qu'il avait à faire à Rouen, c'est beaucoup plus important, effectivement, que de la simple communication. Je crois que ce qui est grave, c'est que le gouvernement n'a pas senti à quel point, sur une affaire de cette nature, il pouvait y avoir une angoisse et des interrogations totalement légitimes. Pardon, mais moi j'aurais très bien imaginé que l'un des ministres installe son cabinet pendant 8 jours de l'écologie de préférence, il y en a 3 ou 4. Bon, il pouvait s'installer à Rouen pendant 8 jours en disant, il y a le préfet, c'est très bien, c'est l'administration, mais la politique, c'est le gouvernement, et pendant 8 jours, vraiment tenir la population, faire une conférence de presse quotidienne, enfin on va pas leur donner des cours, non pas de communication, parce que c'est pas de la communication, c'est sentir les choses, c'est sentir ce que l'on vise, quoi, ce qu'est la vie. Donc, sur l'affaire en ont-ils pas parlé suffisamment tout, etc., encore une fois, là, c'est pas sérieux, parce que ça fait 8 jours que j'entends les médias dire la même chose. Les médias ont arrêté, mais à l'instant même, cet incendie n'existait plus pour les médias. Donc, faut quand même pas charrier. En revanche, encore une fois, je maintiens ce que j'ai dit. le gouvernement n'a pas fait ce qu'il avait à faire, mais sur le fond, sur le plan politique.
À dire vrai, pour vous répondre, France Info avait traité l'incendie ce jeudi, mais comme vous évoquez Chirac,
oui, de 8h à midi, oui.
Je rappellerai également que lui s'était rendu le jour même, effectivement, sur le site d'AZF à Toulouse, le jour de l'explosion, pour faire ce petit parallèle.
Mais il n'avait peut-être pas la mort d'un président de la République. Non, mais
et puis on était en alternance. On était en alternance.
Je dis simplement qu'effectivement, deux choses. Je dis, c'est facile pour des médias. Alors il faut se regarder dans ces cas-là, et les médias ont agi de la même manière. D'ailleurs, on se demande si les politiques ne courent pas après les médias dans ce cas-là. Et encore une fois, je dis que sur le fond, c'est beaucoup plus grave qu'on le dit, car ça n'est pas une affaire de communication.
Et on me dit qu'également France Bleu Normandie du groupe Radio France avait largement couvert et était en édition spéciale. Néanmoins, sur cette rentrée difficile, on va y revenir, Robert Namias, retourne 30 secondes vers Céline Picq, on voit quand même des ministres un peu à la peine, entre Agnès Buzyn, le dossier des urgences, sur l'intérieur, Christophe Castaner, on l'évoquait tout à l'heure. Est-ce que c'est une rentrée difficile, une passe difficile, une forme de fatigue demi-mandat à laquelle on assiste?
C'est une fatigue, et puis je citerai peut-être un exemple, deux exemples très rapidement. D'abord, Monsieur Blanquer, qui n'a pas du tout pris non plus la mesure, de la même façon qu'à Rouen, de ce qui s'était passé à Pantin. Donc, on a une directrice d'école, Christine Renon, qui s'est suicidée avec des lettres extrêmement poignantes et extrêmement claires sur la responsabilité de l'éducation nationale. Et ensuite, au moment de l'enterrement de Christine Renon, il n'y avait aucun représentant de l'éducation nationale de présent. On a parlé de drame, alors que je pense qu'il faut parler de mort au travail dans le cas de Christine Renon, et ça devrait donner un signal d'alerte extrêmement fort. Et là aussi, en termes de communication, Blanquer a minimisé complètement ce suicide, qui était un suicide quasiment forcé par l'institution qui l'a pressuré. Et j'aimerais dire aussi que
vous évoquez un deuxième exemple.
Les difficultés sont pas, enfin, ce n'est pas un hasard que ce soit souvent les métiers qui soient très féminisés, qui soient quand les métiers se féminisent, les conditions de travail se dégradent fortement. Et le deuxième exemple, et je vais aller très vite. Par exemple, sur le Grenelle des violences conjugales, on enchaîne couac sur couac du gouvernement. Il y a eu un grand discours d'Édouard Philippe et rassemblé autour d'un certain nombre de ministres, dont Marlène Schiappa, secrétaire d'État, le 3 septembre 2019, pour lancer un grand Grenelle des violences conjugales qui devait se poursuivre jusqu'au 25 novembre. Et on espérait derrière un projet de loi avec l'ensemble des propositions faites suite à cette période de concertation. Et là, badaboum, on voit qu'il y a une initiative parlementaire de la part des Républicains, Aurélien Pradier, qui dépose une proposition de loi le 29 août et qui grille la priorité quelque part au Grenelle, qui n'a pas de budget, entre parenthèses, n'a toujours pas de budget. Donc là aussi, on voit la volonté politique du gouvernement. Et de façon extrêmement rarissime, la proposition d'Aurélien Pradier a été examinée en commission de loi en procédure anticipée cette semaine pour être votée la semaine prochaine. Et donc avant le Grenelle. Donc ça a court-circuite complètement le Grenelle. Et là, on est en plein cafouillage par rapport à la lutte contre les violences conjugales. Donc, on prendra bien sûr ce qu'il y a à apprendre, s'il y a des bonnes choses dans cette PPL, cette proposition de loi d'Aurélien Pradier. Mais vraiment, par rapport à la volonté publique affichée de faire la grande cause du quinquennat sur la lutte contre les violences, on n'y comprend plus rien avec ce Grenelle.
Une fatigue demi-mandat, je poserai la question dans quelques instants à Robert Namias. 20h40 sur France Info, le rappel de l'information avec vous, Solène Cressan.
Une cérémonie d'hommage aux victimes de la préfecture de police de Paris mardi matin en présence d'Emmanuel Macron. L'attaque au couteau a fait 4 morts, 3 policiers et un agent administratif. L'auteur, mort pendant l'attaque, est décrit comme proche de la mouvance salafiste. Sa femme reste en garde à vue pour les 48 heures. Des gilets jaunes et des militants écologistes continuent de bloquer certains accès au centre commercial Italie 2 à Paris. Ils sont un millier dans ce qu'ils appellent un symbole capitaliste et ils comptent y rester toute la nuit au moins. La police et les CRS sont présents et ils semblent prêts à intervenir. Plusieurs centaines de personnes pour la marche blanche en hommage à Christine Renon, la directrice d'école de Pantin en Seine-Saint-Denis. Elle s'est suicidée il y a 2 semaines et dans une lettre, elle dénonçait ses conditions de travail. Certains parlent de sacrifice et espère le début d'une prise de conscience. L'ONU demande la fin des violences en Irak. Il faut que ça cesse, dit la chef de mission de l'ONU en Irak. Des tirs ont de nouveau été entendus cet après-midi à Bagdad, au 5e jour de manifestation. Et des milliers de personnes dans les rues de la capitale et au sud du pays pour demander le départ du gouvernement accusé de corruption. Bientôt la mi-temps sur les pelouses de Ligue 1 de football, 9e journée. Pour l'instant, Bordeaux mène 2-0 face à Toulouse. 0 partout entre Dijon, Strasbourg et Nantes-Nice cet après-midi. Le PSG a conforté sa place de leader dans le classement en battant Angers à domicile 4-0.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
La santé, l'intérieur, l'éducation, on évoquait ce Grenelle des violences faites aux femmes, les difficultés qui s'accumulent pour l'exécutif. Robert Namias, Emmanuel Macron avait dit à la rentrée à ses ministres, je ne compte pas vous changer, alors c'est à vous de changer. Est-ce que c'était une erreur de vouloir conserver la même équipe? Est-ce qu'il n'y a pas cette fatigue de mi-mandat, de fait?
Je ne pense pas que cette rentrée soit honnêtement plus compliquée qu'une rentrée politique ordinaire. Je pense même qu'elle est plutôt moins compliquée que celle qui s'esquissait l'année dernière à la même époque. Car on est au mois d'octobre et on voyait déjà monter les gilets jaunes, même si ça n'a explosé vraiment qu'au mois de novembre. En plus, on peut toujours accumuler les situations. Dans ce cas, vous pourriez dire aussi que, par exemple, sur la loi fondamentale qui sera discutée toute l'année concernant les retraites, on voit bien, par exemple, que la CFDT est très ouverte, etc., et que le dossier, qui est très très difficile et très explosif, n'est pas si mal emmanché que cela, et c'est certainement plus important qu'un certain nombre d'autres choses. Ce que je crois, par contre, c'est que, manifestement, au bout de 2 ans et demi, globalement, cette présidence, le président lui-même, sans doute, le gouvernement, malgré ses déclarations, donne le sentiment que, quelles que soient ses réussites, ses échecs, etc., il a un problème de rapport, je ne sais pas si c'est à l'opinion, si c'est au peuple, etc. On a l'impression qu'il ne sent pas ce que vivent les gens. Voilà. Donc il peut faire des réformes très bonnes pour les gens, mais on ne fait pas le bonheur du peuple malgré le peuple. Et donc, je pense que, et c'est ça, c'est ce qui vous donne ce sentiment de rentrée difficile, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a des fractions de la population, alors vous pouvez les accumuler, mais elles ne s'accumulent pas, elles ne se coagulent pas en réalité. Enfin, je ne pense pas. Mais il y a des fractions de la population qui se sentent heurtées dans leur chair par la façon dont, effectivement, le gouvernement, le président lui-même parfois, réagit à des événements qui les concernent. C'est particulièrement vrai, vous avez tout à fait raison, en ce qui concerne l'éducation nationale, qui souffre vraiment beaucoup, et effectivement qui n'a pas eu la moindre empathie finalement pour cette directrice, etc., et pour le monde de l'éducation à ce moment-là. Alors du coup, ça devient une faute politique, qui peut ensuite rejaillir effectivement sur la... je dirais presque la vie du gouvernement. Mais... Puisque vous posiez la question de la rentrée, encore une fois, politiquement, elle n'est pas plus compliquée que les autres. Elle continue de révéler une difficulté globale de cet exécutif dans sa conduite des affaires.
Et parmi les textes qui illustrent la loi bioéthique, qui a ses opposants du côté des personnes favorables à la PMA, à la procréation médicalement assistée, estimant que le texte ne va peut-être pas assez loin. Du côté des opposants également, quoique ce jeudi à l'Assemblée, avec un amendement du député Touraine adopté qui reconnaissait la filiation des enfants nés à l'étranger par gestation pour autrui, le gouvernement était contre, a immédiatement demandé une seconde délibération. Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous, est-ce que cette question gêne le gouvernement ?
Et en tout cas, je pense que le gouvernement est assez mal à l'aise sur cette question-là, puisque parmi ces éléments de langage depuis le début de l'année, nous entendons que la GPA serait une ligne rouge infranchissable parce que il serait intolérable pour les femmes et les enfants d'avoir recours à une GPA en France. Et on a quand même, en l'espace de 24 heures, enfin ou même d'une semaine, on a une première circulaire qui fuite du ministère de la Justice. On a ensuite cet amendement qui est voté par la majorité de la République En Marche à l'Assemblée nationale. Et on a la décision de la Cour de cassation qui, pour toutes les trois, en tout cas, encourage cette pratique. Pourquoi ?
Qui n'est pas dépendant du gouvernement, la Cour de cassation.
Pardon ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même trois éléments en l'espace de 8 jours à peine sur une séquence politique quand même bien particulière, qui est cette révision de loi de bioéthique, qui nous mène toujours davantage vers la gestation pour autrui. Et je pense que le gouvernement, effectivement, est mal à l'aise parce que les faits, en fait, en tout cas de sa majorité, sont en contradiction totale avec les propos qu'il tient depuis plusieurs semaines.
Céline Pic, vous êtes féminisme.
C'est effectivement un couac parce que, en fait, c'est un argument à chaque fois qui est avancé par les opposants à la loi sur la PMA, c'est que derrière la PMA, il y aura la GPA. Mais la PMA et la GPA sont deux choses complètement différentes. Et il ne faut surtout pas... tout ce qui pourrait induire une confusion entre les deux serait dramatique, en fait, puisque tout le projet de loi qui a été porté a fait énormément de débats, états généraux de la bioéthique, etc., validation du Conseil national d'éthique, etc. Nous n'avons parlé que de la PMA aujourd'hui. La PMA, je vous rappelle, est juste une technique médicale qui aujourd'hui est réservé aux couples hétérosexuels et nous demandons juste...
Souffrant d'infertilité quand même. C'est un détail, mais il convient de le rappeler.
La fertilité peut être simplement constatée, je vais terminer, c'est une technique médicale qui est autorisée depuis 1982 qui permet d'avoir des dons de gamètes pour pouvoir avoir un enfant par fécondation in vitro. Et aujourd'hui, c'est réservé simplement aux couples hétérosexuels.
Souffrant d'une infertilité, donc d'une pathologie.
La fertilité, je répète, peut être simplement constatée.
Aussi, si vous voulez,
mais... La fertilité peut être constatée, ça ne change rien, que ça reste une technique médicale. La GPA, c'est tout autre chose, c'est la marchandisation du corps des femmes pendant 9 mois, et en tant qu'association féministe, nous sommes parfaitement opposés à la GPA, et je pense qu'il faut faire attention à ne pas mélanger les deux, ça ne procède pas du tout de la même façon, de contrôler le corps d'une femme pendant 9 mois et de la forcer à porter un enfant d'un autre, et puis simplement un don de gamètes et une fécondation in vitro, qui est une technique qui est ouverte depuis 30 ans, et on va pas rouvrir le débat de savoir si on a le droit de faire des dons de gamètes, est-ce que le père biologique, pas le père biologique, j'ai l'impression qu'on est en train de refaire le débat, ou s'il y a eu débat d'ailleurs, en 1982 quand on a ouvert la PMA. Là, c'est simplement rétablir une égalité entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, tout simplement.
Et peut-être Robert Namias en juge de paix.
Oh non, pas en juge de paix, mais une précision quand même, la PMA, ça n'est pas que la fécondation in vitro. La PMA, c'est l'intervention, une intervention médicale, pour une fécondation, ça peut être la stimulation ovarienne, c'est de la PMA.
Ça
peut être,
etc.
Et surtout, et d'abord, l'insémination artificielle.
Bien sûr.
Donc, ne dites pas que c'est simplement la fécondation
in vitro.
C'est un ensemble complet d'assistance médicale pour avoir un enfant.
Merci de cette précision.
Bah oui, c'est tout à fait différent. Mais ce que je voulais dire,
les gens connaissent peut-être plus la fécondation in vitro, donc ça parle des fois plus aux gens.
Mais
l'insémination artificielle.
Quand on parle de PMA.
D'accord.
Quand on parle de PMA, les gens pensent d'abord à l'insémination artificielle, puisque très souvent, et notamment dans le cadre de la loi où il s'agira de couples homosexuels ou de femmes seules, il est évident que la première pratique sera l'insémination artificielle, qui est quand même une opération médicale plus facile, plus aisée, même si c'est quand même compliqué d'ailleurs, d'avoir un enfant par insémination artificielle, plus facile que la fécondation in vitro.
Tout à fait.
Moi, ce que je voudrais dire simplement, peut-être que j'étais trop long, donc je m'arrête.
Je vous en prie, Robert Namias.
Non, je voudrais dire simplement que ce débat sur la PMA, pardon, mais il est tranché. D'abord, l'article 1 de la loi a été voté...
Pardonnez-moi, mais là, il faut que j'intervienne.
Permettez-moi de terminer. Donc, c'est bon. Le débat, il est tranché au sens propre du terme. Alors, on verra. On anticipe, puisque le vote solennel aura lieu d'ici une dizaine de jours. Mais enfin, la PMA et l'ouverture de la PMA à toutes les femmes sera votée d'ici une quinzaine de jours.
Ça n'engage que vous.
Je ne gâche pas que moi, si vous voulez, on parie. Hein.
Bon. On peut tenir les paris. Vous savez bien qu'en politique, rien n'est jamais joué.
Très bien,
au début d'un long processus législatif.
Je ne connais pas la politique comme vous, je dis simplement que même législativement, ce débat est tranché. Bon, alors qu'après, il y ait des troubles dans la majorité. Il y a des troubles partout parce que c'est une affaire de conscience personnelle. Il est tout à fait respectable et normal que des gens n'y soient pas favorables. Il reste qu'il y a une majorité qui va voter la PMA. Donc, ce débat... Il est respectable, on peut tout à fait comprendre et même respecter tous ceux qui y sont tout à fait opposés, pour des raisons qu'ils avancent, qu'on connaît, les arguments de chacun, mais objectivement, le débat est tranché. Et c'était effectivement une promesse politique, elle est tenue, certains trouveront qu'elle est tenue tardivement, mais maintenant elle est tenue, c'est clair.
Un débat respectable qu'on va poursuivre sur ce plateau à 20h50, minutes sur France Info. D'abord, le rappel de l'information avec vous, Solène Cressant.
Après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris, le Premier ministre lance 2 missions d'évaluation des agents de la lutte antiterroriste, annonce d'Edouard Philippe dans une interview au JDD à paraître demain. L'auteur de l'attaque travaillait depuis 2003 à la préfecture et même au sein du service des renseignements et il adhérait à une vision radicale de l'islam proche de la mouvance salafiste. 2 personnes en garde à vue à Amiens et 9 interpellées pendant la manifestation des Gilets jaunes, 450 personnes environ. La préfecture de la Somme parle de Black Blocs. Dans le cortège, ils ont lancé des pierres sur les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Un CRS a fait un malaise. Des centaines d'opposants au projet de méga-complexe Europa City à Gonesse dans le Val-d'Oise sont arrivés en début de soirée sous les fenêtres du Premier ministre à Matignon. Leur rang grossit au cours de la journée. La marche est partie de Gonesse hier matin. Ce projet prévoit d'ici 2027 l'implantation d'un grand centre de commerce et de loisirs en lieu et place de terres agricoles. Le PDG PDG américain de l'usine Lubrizol de Rouen assure que l'incendie n'aura aucun impact sur la santé des habitants. Éric Schnur visitait le site classé Seveso. Aujourd'hui, il s'est aussi engagé à indemniser les riverains victimes de l'incendie. Hier, il s'est entretenu longtemps au ministère de l'écologie avec la ministre Elisabeth Borne sur les modalités pour dédommager les victimes. Son club le confirme ce soir, Hugo Lloris souffre d'une luxation du coude gauche. Le gardien de Tottenham et surtout de l'équipe de France sera forfait pour les deux prochains matchs de qualification pour l'Euro 2020 en Islande et contre la Turquie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neïla Latrousse.
La PMA est un débat tranché, nous disait Robert Namias il y a quelques instants. Je vais donner la parole à Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous. Vous n'étiez pas du tout d'accord. Vous espérez faire flancher ou convaincre en tout cas les députés de la majorité sur la procréation médicalement assistée ?
Il y a un certain nombre d'interrogations hein, et d'inquiétudes que nous avons depuis maintenant plusieurs mois. Nous entrons là dans le début d'un processus législatif. Il y a effectivement une première lecture à l'Assemblée nationale, une deuxième lecture, il faut que le texte passe au Sénat, au Conseil constitutionnel, ensuite la promulgation. On est au tout début d'un processus et vous savez très bien qu'en politique, rien n'est jamais joué d'avance. Surtout quand on voit, et c'était l'un des thèmes de cette émission, que voilà, on est sur un gouvernement qui parfois a des couacs dans sa communication ou dans sa stratégie politique. Donc clairement aujourd'hui, ce n'est pas demain une manifestation qui est organisée à Paris de témoignages, c'est vraiment exprimer nos inquiétudes en espérant que le gouvernement, qui pour l'instant a une position jusqu'au boutiste sur ces questions-là, entende ces interrogations qui sont légitimes et qui méritent des réponses. Ça peut concerner bien sûr cette absence de père qu'on va imposer à certains enfants de manière définitive et donc pour toute leur vie. La question de la marchandisation, et là bien sûr je suis entouré de féministes, donc j'espère qu'elles seront aussi sensibles que moi sur ces questions-là.
Il n'y a pas de marchandisation dans la PMA.
Non, mais quand
il
vous avez, pour l'instant,
il n'y a pas de marchandisation.
On n'a que 200 donneurs en France de sperme. Comment est-ce qu'on va faire pour
répondre à ces besoins ? Je vous rassure, il y a des copains gays qui nous ont dit, vous savez quoi, que leur sperme est militant et disponible. Vous voyez, donc, il y a plein de gens, il y a plein d'hommes qui sont prêts à nous donner leur sperme. Donc, ne vous inquiétez pas.
Est-ce que le sperme de vos copains va suffire ?
Vous savez, les chiffres
commencent. On ne pique pas ensemble.
Donc, vous avez cette question-là. Et comme tous les pays qui ont ouvert la PMA, vous prenez la Grande-Bretagne, la Belgique, on va aller acheter du sperme au Danemark, puisque là-bas, il n'y a pas de don, mais uniquement de la vente. Et puis il y a cette question de la gestation pour autrui, excusez-moi, mais qui est quand même très liée à la procréation médicale.
Non, ça n'a rien à voir.
Je vais peut-être vous en faire la démonstration si vous le permettez.
L'insémination artificielle,
c'est que
ça n'a
vous
rien
avez,
à voir.
À partir du moment où vous considérez qu'être parent, c'est uniquement une question d'intention, et à partir du moment où une femme seule considère
mais c'est
que
c'est déjà le cas avec les couples hétérosexuels dans le cas de la PMA. Donc en fait, on dit des choses qui sont factuellement fausses là. La PMA existe déjà. Il y a déjà des parents d'intention.
Je vous ai pas interrompu volontairement. Déjà, le temps de parole est assez court sur une heure d'émission.
C'est juste factuellement faux.
Si je pouvais terminer, à partir du moment où une femme seule dit « j'ai le désir, certes légitime, donc j'ai le droit d'avoir un enfant », pourquoi un homme seul ne pourrait pas avoir cette même revendication ?
Parce qu'il n'a pas d'utérus.
Mais pour avoir un enfant, il faut de toute façon des gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc
non, il faut surtout un utérus pour le porter pendant 9 mois.
Une femme seule ne peut pas avoir d'enfant, un homme seul ne peut pas avoir d'enfant.
Non, il faut un utérus pour pouvoir porter un enfant pendant 9 mois. Et donc une femme célibataire a le droit d'avoir un don gamète, quel que soit, qu'elle soit en couple ou qu'elle ne le soit pas.
Question Albéric Dumont, que je comprenne bien ce qui
vous
ce qui vous inquiète dans la procréation médicalement assistée, ce n'est que l'ouverture par la suite éventuellement à la gestation pour autrui. Ou c'est la procréation médicalement assistée à proprement parler.
Comme on l'a dit, c'est une technique médicale qui vient en appui de couples qui souffrent d'une pathologie, d'infertilité, pour les aider à avoir un enfant. Ce que propose ce texte, c'est tout simplement de lever ces interdictions pour permettre à des gens qui ne souffrent pas d'infertilité d'avoir recours à cette technique qui sera remboursée par la sécurité sociale. Et donc, premièrement, question de détournement de la solidarité nationale. Pourquoi est-ce que on irait financer, pourquoi la solidarité nationale irait financer des soins pour les gens qui ne sont pas malades. Et deuxièmement, la question de...
Vous avez dit ça pour l'avortement en 1974.
Moi, j'étais pas né.
Le remboursement est venu plus tard.
Je n'étais pas là. Pas pu le dire parce que j'étais pas né.
Il y a un principe d'égalité. C'est-à-dire que le remboursement, s'il est fait à certaines femmes, il doit être fait à toutes
alors,
les femmes.
Parce que le principe d'égalité, vous savez très bien que c'est la situation identique.
Le principe d'égalité, je rappellerai pour les couples hétérosexuels, l'infertilité peut être constatée simplement si la femme tombe pas enceinte. Il y a PMA.
À partir du moment où une femme seule aura du coup, le droit d'avoir un enfant toute seule, pourquoi un homme seul n'aurait pas ce même
droit ? Parce qu'il n'a pas
l'utérus. Ben là, vous parliez du principe d'égalité, madame, je vous dirais que les hommes, dans ce cas-là, sont discriminés.
Il n'a pas l'utérus.
Mais un utérus seul ne suffit pas.
Pour nos amis de la radio, j'aimerais qu'on s'intéresse à un point particulier de la manifestation de demain, c'est son aspect politique. Vous attendez beaucoup d'élus, Albéric Dumont ?
Alors, écoutez, non, c'est pas forcément une manifestation qui est politique, c'est surtout la société civile qui va se mobiliser. Vous avez un sondage IFOP qui est sorti hier, un 83% des Français qui considèrent que, dans la mesure du possible, l'État doit garantir aux enfants le droit de connaître leur père et d'être élevé par lui. Et donc, il y aura des élus, bien sûr, des élus qui seront, y compris de la majorité présidentielle, qui feront la surprise de leur présence. Et puis, évidemment, des dizaines, centaines de milliers de personnes qui descendront dans la rue pour espérer que le gouvernement entende leur inquiétude.
Il nous reste 15 secondes, Robert Namias. Petite question, est-ce que c'est encore payant électoralement d'être anti-PMA, anti-mariage?
Écoutez, deux choses. Factuellement, on voit bien qu'une assez large majorité de Français, maintenant, pour répondre à votre sondage, sont favorables à la PMA. Tout le confirme. Donc c'est important, électoralement. Et ça doit d'ailleurs conditionner le fait qu'on voit bien qu'à droite, notamment chez les Républicains, on est extrêmement discret. Il y a deux candidats, d'ailleurs, à la direction du parti qui défileront, d'après ce que j'ai compris, demain. Mais celui qui sera sans doute élu n'y sera pas. Et de manière générale, on voit bien que ceux qui ont manifesté il y a quelques années contre le mariage pour tous, en 2013, Valérie Pécresse et beaucoup d'autres, aujourd'hui ne sont absolument plus sur ce terrain-là et l'ont même complètement abandonné.
Et nous poursuivrons le débat demain soir. Merci à tous nos informés du samedi. Alice Coffin, porte-parole de la conférence européenne lesbienne.
Juste
Robert Namias, très brièvement, on est en retard.
Alors, ça fait 7 ans que la Manif pour tous raconte n'importe quoi sur les plateaux télé, ça serait une chose, c'est pas grave.
Vous savez ce qu'elle vous dit, Manif pour tous, hein. Vous pouvez pas dire comme ça et accuser les gens
et
les insulter sur un plateau télé.
Non,
ce qui est grave, c'est vos accusations, madame.
On va rendre l'antenne.
Fake news, mais par ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont rendus compte et qui, je les cite, moi, dans un article de 20 minutes, ne viendront pas manifester demain, des anciens sympathisants, parce qu'ils
se sont rendus
compte que ces manifestations ont été blessantes envers les personnes homosexuelles
et Victor
et que le mouvement les a beaucoup déçus. Par un mouvement qui prétend défendre l'intérêt supérieur de l'enfant, mais s'est montré d'un silence assourdissant sur les scandales
sur France Info. Il est 20h59.
N'y allez pas demain, vraiment, n'y allez pas.
Merci, bonne soirée, on se retrouve demain.